Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie.
C'est une joie et une souffrance.
Face à ce micro, j'ai l'impression d'être ton cas, Roosevelt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode des podcasts de la Horde pour le compte des éditions du Nouvel Attila. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Milly Duyer, l'autrice de Cabane, un roman publié le 4 mars 2022 au Nouvel Attila, bien sûr. Un premier roman qui aborde avec beaucoup de poésie les mouvements de la vie en suivant l'image d'une cabane, évoluant au fur et à mesure des chapitres pour accompagner les étapes de la vie de la narratrice. Un entretien réalisé au coin d'un canapé, un chat sur les genoux, un thé à la main qui saura vous plaire si vous tendez l'oreille. Vous écoutez ici la première des trois parties de la rencontre et nous vous souhaitons une très bonne écoute. A tout à l'heure. Bonjour Milly Duyer.
Le roman que tu as écrit, c'est, en tout cas je trouve personnellement, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est un roman sur l'émancipation de soi, surtout sur la rupture avec les certitudes pour se découvrir justement. Et alors la cabane, je trouve que c'est justement une image qui marche très bien avec cette idée parce que c'est une structure qui est un peu éphémère, qui n'est pas vouée à rester et qui supporte les angoisses et qui construit un lien entre le réel et l'imaginaire. Alors du coup, j'ai une question un petit peu plus précise. Est-ce que grandir, c'est déconstruire forcément les parents et apprendre à pardonner? Ou alors, est-ce que c'est juste comprendre l'autre ?
Alors, grandir, c'est déconstruire les parents, ça, c'est sûr. Enfin, ça dépend de comment on a envie de grandir. Hein, mais en fait, comment dire, on est dans un système... Enfin, il n'y a pas d'autre modèle que celui de nos parents, a priori. En tout cas, que celui dans lequel on a grandi au départ. Et donc, ce modèle-là, quel qu'il soit, ça va être, pour une certaine période de temps, notre vérité. Forcément, quand on met un pied dans le monde, ou en grandissant et en quittant peu à peu ce modèle-là, cette influence-là, on se confronte à d'autres modèles et on se dit « Ah bah merde, en fait, il y a des gens qui font autrement que comme ça. » Et donc oui, si on veut en tout cas avoir un rapport au monde qui soit ouvert, on est obligé à un moment donné de déconstruire le modèle dans lequel on a grandi. C'est comprendre l'autre aussi, quand même, parce que ça va de pair avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut pas juste même si on décide finalement après avoir regardé les autres modèles que notre modèle c'est le meilleur, si on comprend pas celui des autres, je vois pas comment on peut vivre dans le monde. Enfin, je veux dire, même si aujourd'hui l'idéal de vie c'est de vivre chacun sur soi, enfin la vie c'est quand même les autres, même si c'est l'enfer, et on est obligé pour vivre avec les autres de les comprendre. C'est le début de la société en fait, c'est le début de la vie. Enfin moi j'imagine même pas une vie sans les autres. Enfin je veux dire, enfin si on l'a eu un petit peu avec le confinement, mais c'est profondément angoissant. C'est paradoxal parce qu'en fait quand tu grandis dans un modèle, tu te construis des histoires, mais tu te rends pas spécialement compte en fait que tu te construis des histoires. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas vraiment une histoire, puisque c'est la tienne, en fait, c'est comme ça. Enfin, chacun se raconte forcément une histoire, donc t'es obligé de grandir dans ce modèle-là. Oui, c'est ça. En fait, déjà, faudrait comprendre qu'on est dans une histoire. Typiquement, la narratrice, je pense que la violence, c'est pas une histoire pour elle, au départ. C'est l'histoire de tout le monde. On a tendance à penser, en tout cas pendant un temps, enfant, que, en fait, ce qui se passe chez nous, c'est la normalité.
Donc, mais c'est ce qui se passe chez tous les autres.
C'est ce qui se passe chez tous les autres. Et c'est pas un hasard qu'on soit dans cette société-là. Je veux dire, si papa il tape maman tous les matins, forcément, plus tard en grandissant, t'as de fortes chances, si t'es un garçon, de foutre une tarte à ta nana, si elle va pas dans le sens dans lequel tu veux qu'elle aille, puisqu'en fait t'as grandi dans ce système-là. Et t'as de fortes chances en tant que nana d'être là, oui, pardon, excuse-moi, genre, c'est vrai que le thé il était pas assez chaud, parce qu'en fait, t'as grandi dans ce système-là. C'est très très dur en fait de se séparer de ça, parce que enfin on va faire d'autres rencontres ensuite en grandissant. Il y a l'amour, mais il y a aussi l'amitié, il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'on va voir d'autres modèles, mais c'est quand même compliqué de se détacher de ce modèle là parce qu'on se construit beaucoup pendant ce passage de l'enfance là. Et c'est dur de sortir de cette histoire là quand même.
Alors du coup, pour rester un petit peu sur la thématique de l'émancipation, il y a toute une partie de la vie de la narratrice qui s'attache au théâtre, à la découverte de l'art théâtral quand elle arrive au lycée, et aussi tout ce que ça implique de travailler en collectif, de se construire dans un groupe. Et la narratrice en parle comme une tribu, comme quelque chose de très viscéral, de presque familial. Et en même temps, C'est un roman qui parle de grandir, de se construire, de s'assumer, et donc la narratrice va vite se retrouver confrontée à ses désirs, sa personnalité, au sein d'un groupe qui tend un peu à créer de la norme, de la conformité. Et elle le vit surtout au moment de son premier amour, qui arrive au sein de cette tribu théâtrale. Et il y a une vraie dualité qui se passe entre le groupe et la personne unique que devient le couple. Est-ce que ça fait partie de l'émancipation ou bien plutôt l'inverse ?
Bah les deux, mais en fait j'ai toujours moi le sentiment que selon le groupe dans lequel on est, on va avoir on va prendre une certaine posture ou on va nous renvoyer une certaine image de nous-mêmes. C'est pas pour rien que quand on est en famille, des fois, je sais pas, moi par exemple, quand je suis en famille, je me dis, tiens, c'est dingue, quand je suis avec eux, avec cette partie-là de la famille, je suis bloquée dans ce rôle-là. Dans la moi de quand j'avais 14 ans, qui est un peu comme ci, un peu comme ça, et qui finalement ne me ressemble plus tellement. Mais c'est très difficile de se détacher de l'image qu'on s'est donnée, qu'on nous a attribuée, et que nous-mêmes nous avons prise dans un groupe. Et donc, le groupe, il épanouit parce qu'il nous confronte à plein d'images de nous-mêmes, puisqu'on rencontre quand même plein de personnalités différentes dans ce groupe, et que peut-être aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes donne un rapport peut-être moins en dualité, moins frontal, et donc va nous renvoyer plusieurs facettes d'une même personnalité, et va nous permettre de nous épanouir de façon différente, et en même temps, on va prendre une place dans ce groupe qui va potentiellement peut-être nous enfermer, puis après tout dépend aussi de la relation qu'on a au groupe, mais la narratrice elle dit souvent il y a ceux qui tirent et ceux qui se laissent porter, et moi je suis dans l'équipe de ceux qui tirent, et en fait j'aurais peut-être voulu être dans l'équipe de ceux qui se laissent porter, et là c'est trop difficile de changer de...
Ouais, bien sûr.
Bon, il y a l'image de l'alpinisme, mais effectivement, si on est en plein milieu d'une escalade à flanc de montagne, on va pas lâcher la corde et dire « Non, en fait, moi, je retourne en arrière, j'ai trop la flemme, mais parfois, on aimerait le faire. » Et dans le rapport amoureux, il y a quelque chose de différent, parce que je crois que... Je sais pas si ça répond à la question, mais le rapport amoureux, ils ont pas besoin de se regarder dans les yeux. C'est par l'estomac que ça passe, j'ai l'impression, moi, l'amour. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de plus charnel, de plus corporel, et peut-être finalement de plus animal, même si la narratrice, elle utilise toujours cette métaphore des animaux sauvages, des tribus d'animaux. Finalement, il y a quelque chose dans ces rapports amicaux sont beaucoup plus teintés d'intellect. Et d'histoires qui se racontent ensemble et d'aventures qui vont vivre ensemble, là où le rapport amoureux il obéit à quelque chose qui est pas vraiment qui est de l'ordre du sensible et sur lequel il est difficile de mettre des mots, je trouve.
C'était la première partie de l'entretien enregistré avec Milly Duyet pour la sortie de son premier roman intitulé Cabane le 4 mars 2022 aux éditions du Nouvel Attila. Merci d'avoir suivi ce numéro, c'était Louis Desflers, prenez soin de vous, à bientôt.